Sagesse du Monde. Bonsoir à tous. Olivier Danès et David Goulois. Nous allons vous parler ce soir des différents yogas. David, peut-être pourrais-tu nous préciser le contexte de cette émission Sagesse du Monde?
Oui, alors dans le cadre de cette émission, c'est-à-dire une fois par mois, on vous propose une émission pour présenter un auteur, une philosophie, une spiritualité particulière. C'est vrai que pour l'instant, en début d'année, on s'est pas mal penché sur différents auteurs ésotériques. On a parlé de Madame Blavatsky en deux émissions, d'Alice Bailey. On vous a parlé la dernière fois d'Elena Rorich et du fameux Agni Yoga. Donc on s'est dit que ça serait une bonne chose de vous présenter les différents yogas. Qu'est-ce que le mot yoga? Quels sont les différents yogas? On vous donne une adresse email si vous voulez poser des questions ou suggérer un thème d'émission. L'adresse est la suivante, sagesse@wanadoo.fr. Je répète, sagesse@wanadoo.fr pour soit nous poser des questions, soit pour suggérer des auteurs ou des thèmes d'émission autour de l'ésotérisme, des philosophies anciennes, de la spiritualité.
Alors ce soir, David, tu vas nous parler des différents yogas. Je pense qu'il va falloir commencer par définir, bien sûr, ce qu'on entend par le mot « yoga ».
Alors c'est vrai que quand on dit le mot « yoga », on pense tout de suite au yoga qui a été importé il y a en Europe il y a environ 100 ans, le yoga du corps, donc on en parlera. Mais en fait, en Inde, ce terme regroupe de multiples yogas. Avant tout, le mot « yoga » vient d'une racine sanscrite, « yug », qui veut dire « attelé ». Normalement, hein, attelé comme on attelle des chevaux à une charrue, par exemple. Il y a une notion derrière aussi de atteler, ça veut dire d'unir, de contrôler en quelque sorte. Hein. Donc, en fait, le yoga, c'est une voie pour s'unir à sa nature spirituelle et du même coup à contrôler notre nature terrestre, humaine, dite inférieure. Donc voilà, il y a plusieurs moyens, plusieurs yogas et plusieurs voies en fait pour s'unir à sa nature profonde.
Donc David, ça part du principe que, si je comprends bien, nous sommes doubles. Nous avons une nature matérielle et une nature esprit. Ou...
Voilà, spirituelle. On peut dire double, triple, parfois septuple, mais peu importe en fait si on peut ramener ça à deux grandes dualités en effet. Une nature qui va avoir besoin d'être domptée, maîtrisée par l'ascèse, par le yoga, et une autre à laquelle il va falloir se relier, s'unir. Donc le terme union serait la meilleure définition du mot yoga, je pense.
Union du divin avec le matériel.
Oui, ou de l'humain avec le divin.
Et tu disais donc qu'il existe quantité de yoga, en fait, ou de voies, donc,
voilà, tout à fait.
Vers cette union.
Alors, le mot yoga, il apparaît dans les textes même très anciens en Inde. Alors ce qu'il faut tout de suite préciser, c'est quand on va parler de yoga, on ne va pas seulement parler d'Inde, on va parler, ma foi, de l'ensemble de l'humanité, car ce mot yoga apparaît sous d'autres formes, sous d'autres mots, à travers d'autres appellations dans d'autres cultures, mais on va voir que ces grandes familles de yoga existent dans les différentes traditions, en fait. Hein. Enfin, on ne va pas forcément le voir, on ne va pas forcément l'étudier, mais que les auditeurs aient en tête qu'on va voir qu'il y a différentes sortes de yoga qui ne s'appellent pas yoga, mais qui existent un petit peu partout dans le monde.
Alors moi, en tant qu'occidental, un peu basique sur toutes ces questions, là, quand j'entends parler de yoga, ça m'évoque quelque chose d'assez physique, en fait, une sorte de gymnastique qui ferait un peu appel à la méditation, un peu appel à peut-être à certaines connaissances de sagesse ou...
Oui, alors c'est vrai qu'en même temps, c'est, dit-on, le yoga le plus ancien. Il remonterait à des âges très reculés où l'homme a commencé à essayer de maîtriser son corps.
Comment tu l'appelles ce yoga là?
Alors en Inde on l'appelle le Hatha Yoga, c'est le yoga du corps. Normalement c'est Hatha correspond au courant solaire, au courant lunaire, donc aux deux grandes paires d'opposés qui existent dans le corps, comme l'inspire, l'expire, etc. Toutes les fonctions bipolaires dans le corps. Hein. Donc le but, c'est de contrôler cette dualité inhérente au corps. Et ça a été la première ascèse de l'homme. L'âme humaine, en s'incarnant dans un corps, a en fait appris à le maîtriser. Et donc depuis ses âges très reculés, l'homme a essayé, en fait, dès le début, d'essayer de prendre contrôle, de prendre conscience et aussi contrôle de son corps. Donc on peut dire que ça, c'est l'origine du yoga du corps.
Parce que les premiers hommes n'avaient pas le contrôle de leur corps ou...
Alors là, on touche à des choses profondes de l'enseignement ésotérique, mais l'idée, c'est qu'il y a des parties du corps qui sont, on dit, sous le seuil de la conscience, et donc on ne peut pas directement contrôler, et d'autres que l'on peut contrôler, comme les muscles, par exemple, les muscles striés squelettiques, comme on dit, hein. Donc dans le yoga du corps, il y a des exercices physiques, musculaires, et il y a d'autres parties, hein, des fonctions plus physiologiques, qu'on apprend à contrôler dans le yoga, d'où les yogis qui arrivent à arrêter leur cœur et à agir sur d'autres fonctions qui normalement ne sont pas sous le contrôle. Il semblerait que au début, l'être humain, dans les mythologies ou philosophies anciennes, ait eu un corps qu'il ne contrôlait pas en fait, hein. Et donc il a appris au fur et à mesure à. Les choses sont entrées comme ça sous le seuil de la conscience, mais n'étaient peut-être pas forcément évidentes dans ce nouveau corps. De pouvoir respirer, de pouvoir faire toutes sortes de choses qui nous paraissent plutôt banales. Alors c'est complètement différent de l'idée qu'on se fait de l'évolution dans le sens du darwinisme. Le corps humain, d'un point de vue ésotérique, dit-on, n'est pas seulement un corps animal. Il y a des énergies, des influences qui sont différentes et qui fait que l'homme a eu une expérience particulière vis-à-vis de ce corps au point de devoir mettre en place des techniques pour le contrôler, car il était d'une nature différente. Parce que l'homme est un être conscient, donc on peut en fait, d'une certaine manière, ce que les animaux ne vont même pas chercher à faire, à essayer d'être conscient des battements de son cœur, de sa respiration. L'animal n'essaye pas de contrôler sa respiration, et puis même des mouvements intestinaux, de la fonction sexuelle, etc. Donc voilà, l'homme est un être conscient, donc il a en tout cas, qu'on l'accepte ou non, cette théorie. Il a en tout cas une relation consciente à son corps. C'est le but de ce premier yoga.
Hatha Yoga, donc.
Hatha Yoga.
Et donc, est-ce que les arts martiaux, le sport tel qu'on le pratique, ça fait partie de cette voie-là?
Oui, toute entreprise de discipline physique, de performance, d'entraînement, donc, d'endurance, de résistance, de contrôle des rythmes, tout cela, ben, on l'a dans le sport, hein, donc d'une certaine manière, on peut dire, alors c'est un peu curieux, il faut ouvrir le yoga du corps, pas seulement aux postures telles qu'on les voit dans les cours de yoga habituels, mais on pourrait ouvrir, d'un point de vue ésotérique, la notion de yoga corporel à toutes les tentatives donc sportives, militaires en quelque sorte aussi, les arts de combat, comme tu le disais. On a aussi en Chine toutes les pratiques de Qigong, hein, de Tai Chi, bref, tout ce qui part du principe qu'en maîtrisant mon corps, je vais avoir accès à une ressource à l'intérieur d'énergie, et qu'en maîtrisant cette énergie, je vais arriver à obtenir une sorte de réalisation spirituelle intérieure. Donc ça, on peut dire que c'est une voie qui part du yoga du corps. Et souvent, ce yoga est mêlé d'ailleurs avec un autre yoga, qui est le yoga des énergies proprement dit. Si le premier correspond au corps tel qu'on le voit, le corps physique, donc avec des pratiques donc respiratoires, des pratiques sportives proprement dites ou posturales. Le deuxième est purement énergétique et il a plusieurs noms. En Inde, on l'appelle le Kundalini Yoga, le yoga de la force Kundalini qui est logé, pense-t-on, au plus profond de la colonne vertébrale, souvent représenté comme un serpent enroulé sur lui-même qu'on va essayer d'éveiller. Le Qigong, ou même le Neigong, comme le disent les Chinois, un travail plus intérieur. Kong, ça veut dire travail, hein, et Nei, c'est l'intérieur. Donc, dans le Neigong, Neikong, dépend comment on le prononce, on a cette tentative d'aller puiser justement dans les forces énergétiques, hein. Et donc, le Kundalini Yoga, le Neigong, ou le Tantra Yoga, donc le yoga dérivé du culte tantrique, culte du père et de la mère, hein. Il y a les deux aspects qu'on appelle Shiva et Shakti, donc les deux grandes polarités. Tout cela a trait donc à ce yoga énergétique. Donc pour lui, le travail respiratoire va pas être seulement un travail de respiration mécanique, mais l'idée va être de pouvoir capter l'énergie qui est en nous, mais aussi celle qui nous environne, de les mêler avec d'autres formes d'énergie plus psychique. C'est une sorte de yoga alchimique qui est très répandu dans toute l'Asie.
C'est quelque chose, David, qui se pratique alors en même temps que le Hatha Yoga. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer ces postures de Hatha Yoga et en même temps faire du Laya Yoga, le yoga des énergies
ou... En général, on part du Hatha Yoga. Dans la tradition première du yoga tout court, avant le yoga tout court, en fait, renvoyait à différents stades du yoga, il y avait la posture avec dedans des contractions musculaires diverses, hein, de toutes les parties du corps. On a ça aussi dans le Qigong. Et après, le pranayama. Donc le premier s'appelle asana, en sanskrit, les postures. Et après, le pranayama. C'est-à-dire la yama, c'est la maîtrise du prana. Là, on rentre dans un yoga plus subtil, plus interne, qui est censé agir sur les forces d'énergie qu'on appelle chakra en Inde et qu'on appelle les dantien, les différents chaudrons alchimiques. Donc il y a une physiologie éthérique, subtile, un corps de prana, de chi dans ce deuxième yoga. Et la respiration n'est plus vécue d'un point de vue donc mécanique, mais comme une respiration interne, cellulaire et surtout énergétique, avec des sensations de gonflement du corps, de rétrécissement du corps, de circulation d'énergie autre que le sang ou que la circulation des nerfs, hein, que le courant électrique.
Alors David, donc si je reprends, donc il y a d'abord le yoga, on va physique, dire physique, hein, oui, le Hatha Yoga, ensuite le yoga énergétique plus, qu'on appelle le Laya Yoga.
Alors Laya, ça veut dire dissolution. Donc l'idée, c'est que nos différentes centres d'énergie, on va en quelque sorte les faire brûler et on va y dissoudre dedans tout ce qui est matériel. Donc c'est un yoga de réabsorption déjà, hein. L'idée, c'est que on est autre chose que le corps physique et matériel. Et qu'en développant ce corps plus subtil qui nous entoure, on va donc faire ce processus Laya de réabsorption.
Donc c'est un yoga qui va renforcer notre aura, qui va nous rendre plus magnétiques,
oui.
Ou
il a en fait des réels dangers d'un point de vue ésotérique. On voit ça beaucoup dans les enseignements de Madame Blavatsky ou même d'Alice Bellet, hein, ou même d'Elena Horitch. Il y a un grand danger sur ce yoga, car on part du principe qu'en stimulant cette énergie, on va se réaliser. Et en fait, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Normalement, ce yoga devrait vraiment concerner ceux qui sont à la fin de leur évolution pour accélérer certains processus intérieurs de spiritualisation de la matière. Mais quand on commence avec ce yoga, tous vos désirs, vos pensées vont malheureusement être stimulés par ces pratiques. C'est une chose qu'on n'enseigne jamais. Donc, il n'est pas recommandé de pratiquer ou pas très longtemps, juste pour des questions d'hygiène. Mais dès qu'on part du principe qu'avec l'énergie, on va se réaliser, on peut suivre une voie matérielle. En fait, hein, on risque d'accentuer des instincts, des...
La réalisation devient une sorte d'objectif...
matérialiste. Et oui. On a donc... on voit ça dans les arts martiaux, dans des pratiques de magie sexuelle aussi, où on va essayer d'aller tirer, de soutirer à l'autre ou dans l'environnement une puissance... sans obtenir forcément la sagesse. Donc c'est pas l'énergie qui peut être développée par ce yoga-là peut être purement matérielle, même si elle est intense et puissante. C'est ça en fait l'idée. Donc ça n'ouvre pas forcément le cœur ni la conscience, contrairement à ce qu'on croit.
Donc dans cette émission, nous vous parlons des différents types de yoga, mais nous ne sommes pas en train de vous dire faites de votre côté les pratiques que vous auriez pu lire. Je crois que c'est important d'avoir un maître ou un professeur, pas quelqu'un qui guide, non, le travail qu'on peut faire.
Oui, pour moi, il n'est pas, je le cite, il est très important, mais il n'est pas recommandé, et encore moins pour les Occidentaux qui ont une capacité, qui n'ont pas les mêmes héritages génétiques, corporels que les Orientaux. Ça, c'est vraiment évident pour ceux qui ont beaucoup... côtoyer ou pratiquer avec des orientaux ou qui ont lu aussi les enseignements des maîtres. Donc pour l'occidental, ces pratiques directement sur le corps d'ailleurs ne sont pas si répandues que ça, elles viennent vraiment d'Orient, c'est pas pour rien. Et l'occidental a développé plutôt des yogas plus psychologiques, on va dire.
D'accord. David, nous allons parler tout à l'heure, nous allons faire une première pause maintenant et vous retrouver pour parler de ces yogas... ces autres yogas. Eh bien, nous vous retrouvons dans Sagesse du Monde avec cette émission consacrée aux différents types de yoga. Avec David, nous avons vu deux yogas importants. En tout cas, le premier est plus répandu, le Hatha Yoga, le yoga physique. Et puis, nous avons parlé ensuite du yoga des énergies, le Laya Yoga. Et je crois que maintenant, nous allons passer, David, au Bhakti Yoga, donc le yoga de la dévotion, le yoga de l'amour.
Oui, l'idée en fait derrière ces yogas, c'est que ces yogas suivent l'évolution humaine. À mesure que l'homme évolue, il va développer, selon son niveau actuel hein, de développement, de conscience, il va donc développer des techniques qui lui correspondent. Donc quand l'homme était essentiellement centré sur son corps physique et énergétique, il a d'abord développé donc ce yoga purement corporel, puis s'est rendu compte qu'il avait un corps plus subtil, donc il a développé autour des techniques un peu plus subtiles, donc ce yoga énergétique. Puis en développant son corps émotionnel, donc on peut dire que c'est la deuxième phase, l'humanité est entrée dans un yoga plus psychique, plus psychologique. Et là, on commence à voir ce yoga qui a beaucoup influencé et l'Orient comme l'Occident, c'est le yoga de la dévotion, de l'amour, comme tu le disais, de la sensibilité. Là, on suit une voie psychologique de sensibilité. Alors, en Occident, c'est très simple, on peut dire que les religions, de façon générale, sont des bhakti yoga. Peut-être plus encore la religion chrétienne, qui est un pur bhakti yoga, essentiellement centré sur la personne du Christ.
C'est... Donc la dévotion au Christ, ça fait partie... La dévotion, c'est un yoga en quelque sorte.
Tout à fait, tout à fait. Donc il faut ouvrir le mot yoga et cesser de l'envisager dans un aspect technique corporel. Hein. Il faut ouvrir et penser que le fait de prier, d'aspirer vers des valeurs morales plus grandes ou vers une divinité, vers des principes abstraits, avec un sentiment de dévouement intense, de recherche mystique pour s'unir, ça c'est un yoga purement psychologique. Les cérémonies, les rituels dévotionnels, tout ça, c'est des mises en pratique de ce yoga de dévotion qu'on appelle le Bhakti Yoga en Inde.
Voilà, parce que donc je rappelle pour ceux qui auraient pris l'émission en cours que yoga, ça signifie union, donc union de notre être matériel avec notre divinité voilà. Intrinsèque.
Alors en Inde, on a la figure de Krishna qui est exactement l'équivalent, même 3000 ans avant Jésus-Christ, du Christ. Et les hindous ont développé un yoga directement tourné vers Krishna. Krishna en tant qu'enfant, puis en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant spirituel. Donc il y a des cultes dévotionnels, des chants mantriques qui rappellent donc les louanges ou alors les prières chrétiennes. Donc on a vraiment dans ces deux figures qui sont christiques, si on peut dire, l'un Vishnu, l'autre christique, mais qui représentent vraiment les archétypes parfaits de l'aspect amour. Donc on se développe par ce yoga avec le cœur et avec l'idée mystique de s'unir avec quelque chose de plus grand, avec l'idée que Dieu est amour. Donc il est représenté par son fils ou par un avatar, on dirait en Inde, et en se liant à lui, en s'identifiant à lui, ça nous permet de nous relier à ce qu'il exprime, à ce qu'il représente, c'est-à-dire Dieu amour. Donc c'est un yoga qui est assez répandu. On peut dire qu'en quelque sorte, le judaïsme et l'islam, même si c'est d'une manière différente, ont développé en tout cas beaucoup de dévouement, de rituelis et de développement du sacré, hein, du sacré, donc l'idée de la religion en elle-même, c'est un bhakti yoga de façon générale.
Et David, tu disais que en fait c'est l'évolution de l'homme qui l'avait amené à découvrir de nouvelles formes de yoga, donc des nouvelles voies en fait, hein, pour se relier à la divinité. Est-ce que aujourd'hui on parle de yoga dévotionnel? Alors moi j'ai vu quelquefois des grands sages indiens venir en France et réunir des milliers de personnes autour d'eux et qui semblent être dans ce yoga de la dévotion, apparemment, de ce que je comprends. En même temps, ce sont des gens, de ce que je vois, qui pratiquent eux-mêmes aussi du Hatha Yoga, donc du yoga physique. Est-ce que ça... Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on pratique simultanément plusieurs sortes de yoga, ou est-ce que ça doit être séquentiel selon notre évolution personnelle?
C'est pas séquentiel, parce que vu qu'on est plus dans cette ère où on développait notre corps émotionnel, là c'est un acquis et on l'utilise largement, mais on n'est pas en train vraiment de le développer. on est plutôt en train de développer vraiment le mental. Donc on a eu des nouveaux yogas qui se sont rajoutés, qu'on va voir par la suite. Mais l'être humain étant très polarisé émotionnellement, il a tendance, peu importe le type d'enseignant, à développer un bhakti face à son instructeur. On a l'exemple prosaïque avec le professeur de ski ou le maître de le maître de piscine ou le enfin n'importe quel instructeur sur qui on va projeter comme ça une sorte d'image parfaite de l'enseignant avec quelque chose même parfois de l'ordre de la séduction. Mais ça, c'est quelque chose d'inhérent au corps émotionnel. Mais il y a des voies entières, je pense à un grand avatar, Ramakrishna, c'est du pur yoga, c'est du pur bhakti yoga. C'était un grand sage hindou qui s'identifiait à toutes les figures de la divinité. D'abord Kali, parce qu'il était du Bengale, cette région du nord-est de l'Inde où le culte de la Shakti, de la mère divine, est très développé, mais il s'est identifié au Christ, au prophète Mohammed, à la Vierge Marie. Enfin, il avait cette capacité de pouvoir se mêler, s'unir à toutes les formes de divinité, et pour lui, Dieu était un à travers toutes ses formes. C'est du bhakti. Alors, le Hatha Yoga est souvent très prisé. Par les plus grands avatars, en général, non. Mais par des instructeurs initiés, souvent il est utilisé comme pratique de purification, pratique d'accompagnement, mais aucun grand maître n'a considéré véritablement le Hatha Yoga comme une voie de réalisation spirituelle. C'est vraiment ce Ramakrishna, Vivekananda, Yogananda, tous vraiment n'ont jamais dit, et même ils ont même dit le contraire, que le yoga du corps en lui-même ne pouvait pas permettre de se réaliser. Donc c'est des voies d'accompagnement que l'on trouve. Mais là, tu fais peut-être référence à un autre yoga qui est différent du bhakti yoga, mais qui est assez psychologique. C'est le jnana yoga. C'est un terme un petit peu barbare. Jnana, ça veut dire sagesse, en quelque sorte, hein. On peut le traduire comme le yoga de la connaissance du soi. Le soi sous toutes ses formes. D'abord, on examine son moi inférieur, qui est une sorte donc de soi inférieur, puis le soi spirituel, l'âme, puis on va jusqu'à s'unir au soi divin, à l'étincelle, l'esprit pur en nous. C'est un yoga très psychologique. On pense qu'il est mental, mais parce qu'il utilise le discernement. Mais chez lui, il n'y a aucune dévotion.
Donc, quelle est la pratique alors? Celui qui pratique,
C'est
qu'est-ce
la
qu'il fait?
pratique du questionnement conscient de qui suis-je et une pratique de discernement où on reconnaît tout ce qui est non-soi, donc comme n'appartenant pas au soi. Donc les sensations du corps, les émotions, les pensées. Donc en l'occurrence, être dévot d'un maître pour le jnana yogi, c'est une hérésie, c'est une illusion, parce que c'est un processus psychique. Et dans le jnana yoga, on essaye de s'identifier à ce que l'on est réellement. C'est un yoga très subtil. Le yoga de
C'est
la
une
dévotion
attitude, un peu une attitude intérieure de se
psychologique
dire je ne suis pas
constante.
ça, je ne suis pas ça,
Voilà.
je ne suis pas ça, je ne suis pas ça.
Et l'idée, c'est de se désidentifier, pardon, de retirer sa conscience et de la centrer dans ce que l'on vit comme étant vraiment notre nature profonde. Là, il faut vraiment un gourou au sens étymologique du terme, hein. Ça veut dire gourou, c'est celui qui pèse, hein. C'est-à-dire celui qui a vraiment le poids de l'autorité, de la pratique, de l'expérience pour vous guider. C'est pas le terme galvaudé de maintenant, mais en tout cas un instructeur suffisamment avancé pour cela. Les exemples que l'on a surtout, c'est les enseignements de Krishnamurti, qui aurait refusé peut-être ce terme, mais c'est dans la lignée de ce yoga-là, de cette approche-là.
De la connaissance. Donc Krishnamurti, juste pour rappeler pour nos éditeurs, c'est un sage d'origine de l'Inde hein, qui a enseigné en Occident au XXe siècle. Hein. Je crois qu'il est décédé dans les années 80, je crois.
Oui, il est mort en 1986.
Et c'était vraiment donc le yoga de la connaissance.
De la connaissance du soi, donc pas du tout une connaissance intellectuelle. Et avant lui, il y a Shankaracharya, qui est le père du Vedanta, ou du moins le réformateur du Vedanta, qui est le Vedanta, c'est l'accomplissement des Védas, et qui traite de ce yoga-là, en fait, hein, du yoga de la connaissance du soi. Et on vous a parlé dans le passé de Maitreya, de cet instructeur spirituel qui aurait travaillé à travers Krishnamurti et qui lui-même transmet ce type d'enseignement sur le soi, sur le détachement, l'identification au soi et pas au non-soi. Donc c'est un yoga psychologique subtil. Il est un peu à la mode en ce moment où on a beaucoup d'Américains, et ça, on voit maintenant ça en Europe, qui se placent un petit peu comme des sortes de jnana yogis, qui ont vécu parfois certaines expériences qu'ils pensent être celles de l'illumination et ont un discours très jnana yogi, je dirais, hein. Donc ça correspond aussi à des tempéraments humains, il faut voir ça. Si tous les yogas, on les met sur la table, au même niveau, selon nos énergies, on va être attiré plus vers certains yogas que d'autres. Les gens qui sont par nature dévotionnels vont aller vers le yoga dévotionnel, vers le bhakti yoga. Ceux qui ont une nature plus subtile, psychologique, introspective, vont aller vers le jnana yoga. Ceux qui donc, sont plus tournés vers l'aspect physique, ascétique, vont aller vers des formes assez poussées de yoga physique ou énergétique.
Alors David, donc Bhakti Yoga, Jnana Yoga, alors maintenant Raja Yoga ou
Voilà.
Raja Yoga.
Ça se prononce Raja. C'est littéralement le yoga royal ou le yoga des rois. On pense aux Maharajas, aux différents Rajputs de l'Inde. C'est en fait un yoga qui est, pense-t-on, la continuité du yoga du corps. C'est-à-dire que le yoga du corps était censé le préparer. On parle aussi du yoga à huit membres. Il y a quatre premiers membres qui correspondent au yoga physique. Il y a des règles et des commandements, puis après il y a les postures, la respiration, tout ça fait partie du yoga physique, on pourrait dire comme préparatoire, pour l'aspirant, on dirait. Puis après, celui qui entre vraiment sur le sentier, s'il suit cette voie-là, suit la voie du Raja Yoga, qui est un yoga purement mental. Alors on peut le traduire par yoga méditatif. C'est l'idée que, en maîtrisant le processus de la pensée par des techniques, donc on retrouve l'esprit du yoga pur, hein, étymologique, hein, donc de l'ascèse, hein, l'idée d'atteler, de contenir. Là, c'est plus son corps, c'est le mental. Par des pratiques, alors il y en a plusieurs, la pratique de concentration, il y a avant la pratique pour se retirer les sens, retirer sa conscience des différents sens, comme pour anesthésier le corps, retirer sa conscience du toucher, retirer la conscience de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, des cinq sens. On apprend à isoler la conscience, c'est-à-dire que la conscience ne soit plus prisonnière du corps, puis on pratique après, d'une façon de plus en plus intériorisée, la concentration. Et la concentration, quand elle est soutenue, elle doit amener à la méditation. La méditation, c'est une concentration soutenue dans laquelle le mental ne part pas. C'est ça l'idée. Donc on fait même des exercices de concentration sur une flamme, après sur un mantra, ça peut être un objet de la divinité, une représentation. On va voir qu'il y a différents accessoires, hein, qu'on appelle, donc on en a déjà parlé, hein, le mantra, des formules verbales, souvent la même, que l'on répète, sur laquelle on se concentre. Il y a des formules graphiques, comme les mandalas, les yantras, parfois même des gestes, mudra des doigts. Mais dans le Raja Yoga, c'est surtout donc un yoga méditatif. Et quand la méditation est elle-même soutenue longtemps, on entre dans ce qu'on appelle le samadhi, une sorte de contemplation intérieure de sa divinité. Donc lui, c'est un yoga vraiment actif mentalement, très actif mentalement. Il n'y a pas de processus psychologique comme dans le Jnana Yoga, de réflexion de plus en plus abstraite ou d'identification abstraite. Là, il y a vraiment l'idée qu'il y a une technique, et que cette technique, à force d'être répétée, nous fait entrer dans une maîtrise réelle et progressive du mental, puis pour atteindre les niveaux spirituels. C'est vraiment la concentration qui mène à la méditation. C'est vraiment quand on voit un petit peu partout. Elle est très répandue, elle a été beaucoup reprise dans le bouddhisme, hein, le bouddhisme méditatif, le chan, le zen, qui vient du mot dhyan, qui veut dire dhyana, qui veut dire méditation. Ça a donné pour les Chinois chan, les Japonais zen, le zen. Mais on voit que dans le bouddhisme, cette forme de yoga, en fait, est très répandue. L'image du Bouddha sous l'arbre, il fait un Raja Yoga, en fait, hein, on peut
Il
dire.
reste en méditation, donc il apprend
Voilà.
à contrôler son mental.
Il agit fortement, fortement, puissamment dessus. L'idée que si on laisse le mental suivre les cinq sens ou même nos désirs ou même nos pensées, on n'arrive jamais à être maître de nous-mêmes.
Alors David, je crois qu'on va faire une deuxième pause et puis nous allons parler après du karma yoga. Nous retrouvons Sagesse du Monde avec une émission consacrée aux différents types de yoga. Donc David, tu nous as expliqué le karma yoga, le yoga physique.
Non, c'est le hatha yoga. On n'a pas encore parlé.
Excuse-moi. Voilà, oui, le karma yoga, c'est là où nous voulons aller maintenant. Donc le hatha yoga, le bhakti yoga qui est le yoga dévotionnel, le laya yoga qui est le yoga des énergies, le raja yoga. Tu nous as dit le yoga royal, méditatif, hein, contrôle du mental. Le jnana yoga, la connaissance de soi. Et puis maintenant, donc, David, parle-nous un peu du karma yoga, alors.
Voilà, alors celui-ci, je dirais, c'est le plus universel de tous les yogas. À mon avis, c'est le moins dangereux, le plus immédiat, et c'est l'alpha et puis l'oméga du yoga. Pourquoi ? Parce que c'est le yoga typiquement de l'action. Karma, ça vient de la racine kli, qui veut dire action. Donc on crée des actions. Mais l'idée, c'est de créer des actions justes. Et il n'y a pas de technique proprement dite. Il n'y a pas besoin proprement dite d'un instructeur, même si c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui vous guide, qui vous accompagne. Mais l'idée, c'est que c'est un yoga de service. Donc, et c'est le yoga que font naturellement les gens qui soient orientaux, occidentaux. Encore plus peut-être pour les occidentaux qui n'ont pas forcément, on n'a pas dans notre héritage culturel l'idée de technique, de maîtrise de soi. Ça a été beaucoup perdu, hein, l'aspect méditatif. Ça a existé dans l'Antiquité, mais malheureusement, ça a été beaucoup perdu, alors qu'en Orient, ça demeure. Et les Orientaux, souvent, ont tendance à utiliser des yogas physico-énergétiques, avec parfois soit une direction plus conscience ou plus mentale, hein, donc jnana yoga, ou plus proprement dit technique. Mais le yoga du service, lui, on peut penser qu'il va être largement développé encore plus par les Occidentaux, parce qu'il a un usage pratique immédiat. Et les Occidentaux ont souvent une approche plus pragmatique du sentier. Donc ce yoga, c'est le yoga qui consiste à se mettre au service, à donner le meilleur de soi dans une action pour le bien-être des autres, de l'extérieur de façon générale. Ça peut être le travail au niveau humain, mais ça peut être aussi le travail pour les animaux, les végétaux, les minéraux, la planète. L'écologie, on peut dire, si c'est en dehors de tout aspect politique, on peut dire que c'est un karma yoga d'essayer de régénérer la planète, de sauver la planète. Et tout travail peut être considéré comme un karma yoga. L'idée dedans, c'est qu'on fait la chose parce que la chose doit être faite sans en attendre de retour. C'est la fameuse phrase de Krishna, « Libère-toi du fruit de tes actions ». Donc tu fais l'action parce que tu sais qu'elle est juste, qu'il faut la faire, mais sans attendre d'honneur, de rétribution, de titre. Alors nous, on est un petit peu dévoyés au niveau de l'Occident à ce niveau-là, parce qu'on a toujours des titres, des récompenses, des choses. Mais en fait, c'est un peu contraire à cet esprit du don gratuit. Dès qu'une personne est en contact avec sa nature spirituelle, son âme, elle a envie en fait d'aider, de servir. Et c'est tout simplement l'énergie de l'âme qui s'exprime dans ce karma yoga. Donc on peut faire partie d'une association, bénévole souvent pour éviter justement l'attachement, hein. Mais on peut même avoir un travail rétribué et faire un très bon karma yoga. On peut penser aux gens qui travaillent au niveau de l'ONU sur des vastes programmes pour vraiment aider tous ceux dans le monde qui meurent de faim par exemple. Mais peu importe, même à son travail, on peut se mettre dans l'idée d'apporter le meilleur de soi-même. Et dans cet acte, il y a une transmutation de la personne.
C'est assez bien une attitude, en fait, que ça décrit. Hein,
tout à fait. Ce n'est pas une technique, ni mentale, ni respiratoire, ni physique. Il n'y a personne qui est l'objet de dévotion. Il n'y a pas, comme dans Jnana Yoga, l'idée qu'on est un soi, parce qu'on peut très bien refuser cette idée-là. Mais l'idée qu'on est tous ensemble, sur le même plan, et qu'on peut apporter sa pierre de touche à l'édifice. Donc ça, c'est un karma yoga. C'est vraiment le yoga du don, du service désintéressé.
Mère Teresa, par exemple, c'était...
Oui, bien sûr, c'est la voie des œuvres, comme lorsqu'on parlait avant du christianisme, en disant qu'il y avait la voie contemplative, de la prière, des béatitudes, de la méditation.
Donc ça, alors redis-nous un peu le nom savant, là, c'était quel yoga, ça ?
Le karma yoga.
Oui, mais la contemplation...
Ah, l'aspect... Alors, si c'est... Soit du Raja Yoga, si c'est une technique mentale, une concentration par exemple sur un mantra, ou sur une formule graphique, enfin.
Un mantra, peut-être dis-nous en deux mots.
Le mantra, c'est un mot de pouvoir, un ensemble donc de syllabes qui forment donc avec plusieurs mots et aussi donc une phrase qui a une valeur énergétique et aussi spirituelle. Je pense au premier mantra qui me vient là, Om Namah Shivaya. Om, terme intraduisible.
Ça, c'est quoi? C'est du sanskrit,
c'est
David?
Du sanskrit, oui. Je salue, je m'identifie à Shiva. Je reconnais Shiva en moi, en quelque sorte. Donc, dans le shivaïsme, c'est un mantra, c'est le plus grand des mantras, selon eux. Donc, en le répétant, on s'identifie à Shiva, mais pas comme un acte de dévotionnel. Il y a plus des chants, en fait, hein, dans le yoga dévotionnel, comme des louanges, hein, comme on disait, des chants religieux, comme à la messe, par exemple. Ça, c'est du bhakti yoga. Mais souvent, dans le raja yoga, si on utilise un mantra comme objet de méditation, ce sera le même mantra, et l'idée c'est qu'on entre profondément dedans, qu'on en saisit par le mental abstrait sa signification, et qu'on puise dans l'énergie que ce mantra est censé représenter. C'est une sorte de formule énergétique, hein, c'est très curieux le mantra. On a la même chose quand ce n'est plus un mantra, mais un graphique, qu'on appelle yantra, ou dans le bouddhisme, ça a été repris sous le terme mandala. Vous savez les mandalas qu'on voit dans le bouddhisme.
Les dessins colorés,
Voilà.
avec des traits, oui.
Et on peut dire de façon générale, toute l'iconographie religieuse, la façon de représenter Dieu, ses saints, ou des maîtres, des avatars, des yogis,
Les icônes, alors, ça en fait
les
partie?
icônes, ça peut très bien être des supports de méditation pour le Raja Yogi. Hein? Où là, on va vraiment, ça va être. C'est l'idée dans le yantra, c'est un instrument de maîtrise qui enferme la divinité dedans. Hein? Donc il y a son énergie qui est représentée dans ce monde-ci, et on s'en sert comme d'un véhicule. Donc ça, c'est du Raja. Après, il y a des formes de doigts, des gestuels sacrés, qu'on voit dans les danses sacrées, mais qu'on peut utiliser en méditation. On pense souvent, vous savez, aux deux doigts qui se joignent, hein, le pouce et puis l'index, c'est un mudra, mais il y en a plein, qui sont censés agir sur différentes parties du corps, donc les mudras, pour aider, accompagner. Mais ce n'est pas un yoga complet en soi.
C'est juste un outil, quoi, au service
C'est
des.
un outil.
Donc, comment tu dis,
Mudra.
le mudra, c'est une gestuelle, en fait, hein?
Voilà. Et quand
D'accord.
on y met l'intention et quand on sait comment il agit lui-même, il y a certains mudras qui aident à concentrer l'énergie, d'autres à la disperser, d'autres à la concentrer vers le haut, vers le bas, etc.
D'accord. Alors David, on était parti un peu sur le, on était parti du karma yoga pour, tu avais commencé à dire que dans
Et
le
j'ai pas répondu
Christi.
d'ailleurs à tout, excuse-moi, en disant que il peut y avoir donc psychologiquement soit le Raja Yoga, soit le Jnana Yoga qui enlève toutes ces formes-là et qui s'identifie qu'à une chose, c'est ce que l'on est profondément. Donc c'est un dénuement total, un détachement total.
Voilà, donc on parlait là de la contemplation au sens chrétien, en fait,
Voilà.
hein, d'accord. Et donc tu disais aussi, dans la chrétienté, il y a un aspect karma yoga, en fait.
Voilà. Alors c'est par exemple tous les hôpitaux ou les centres de soins, tous les prêtres qui guérissaient ou qui exorcisaient les gens. Il y a eu parfois aussi souvent des couvents qui produisaient aussi je sais pas moi, par exemple, des légumes, des choses comme ça, qui les offraient parfois, ou alors qu'ils le vendaient peut-être aussi pour vivre. Mais l'enseignement, la guérison, qui ont été les deux grandes tendances des religions, en tout cas leur fonction, enseigner, pouvoir guérir, soulager les maux, a été souvent l'aspect karma yoga des religions, c'est-à-dire tourner vers le bien-être social de
Donc, se
des
tourner
gens.
vers le bien-être social, c'est une voie de
Karma yoga,
réalisation.
tout à fait.
Ça nous permet quoi? De nous décentrer de nous-mêmes et de.
Premier aspect, c'est que le moi est une illusion, donc vous vous refondez dans une forme d'unité, vous faites partie de cet ensemble. Parce que le problème des voies, si on prend Raja Yoga ou Jnana Yoga, donc méditative ou d'identification, c'est qu'on peut s'isoler, il y a un risque, à s'isoler intérieurement et à aller vers une voie parfois
S'isoler des
d'égoïsme,
autres, tu veux dire.
voilà, et du monde. Le karma yoga nous plonge dans le monde et nous force, c'est ce que l'on vit ma foi tous les jours, donc les gens qui nous écoutent, qui prennent le métro, qui vont à leur travail, qui contactent plein de gens, qui font leurs courses, ils peuvent très bien se mettre dans une attitude où ils vont apporter.
Ils le font en tant que service et non
Voilà.
plus pour eux-mêmes, quoi, quelque
C'est pas
part.
un travail au sens d'obligation.
Donc la mère de famille, elle est pleinement là-dedans.
Bien sûr, si la mère de famille vraiment élève ses enfants en se sacrifiant elle-même, il y a une notion de sacrifice de soi qui est pas du tout quelque chose de mortuaire ni de sanglant, mais qui est vraiment la capacité de rendre sacré, ça sert, c'est-à-dire d'aller puiser en soi les meilleures énergies pour les offrir. Et plus vous donnez, comme disait Jésus, à ceux qui donnent, il sera donné, plus vous donnez, plus vous pouvez recevoir l'énergie supérieure. Donc il y a l'idée qu'on se transforme comme ça par le karma yoga. On donne, on est sûr, il y a une foi inconditionnelle, qu'on va pouvoir recevoir de nouveau, ou continuer, qu'on débloque en nous de l'espace pour recevoir encore, donc pour donner encore. Vous voyez, c'est l'idée, c'est d'un flux comme ça perpétuel. Normalement, on ne se dévitalise pas si on sert.
Quand tu dis recevoir, c'est pas forcément des biens matériels.
Non, c'est subtil, c'est de l'énergie en fait. La nature a horreur du vide. Si vous déplacez l'énergie, le vide que vous laissez va être remplacé. Donc si vous essayez de donner le meilleur de vous-même, vous allez attirer ce meilleur-là aussi. Donc vous, comme ça, vous alimentez un puits comme ça.
C'est pour ça qu'on voit alors les personnes qui ont beaucoup d'énergie, on va dire beaucoup de feu en elles, on sent que c'est quelque chose d'inépuisable, quoi. Elles ont cette capacité de le donner. Et
si c'est pas émotionnel, oui. Si c'est émotionnel, elles vont se fatiguer. Ou si on est un petit peu fanatique, je dirais, dans notre façon de travailler, on va aller au-delà de ses forces. Donc il y a une idée de rythme. C'est pour ça qu'il y a des cycles même dans le travail. En fait, il faudrait spiritualiser la notion de travail et on pourrait comprendre ce qu'est le service.
Alors David, il va falloir, on arrive au terme de cette émission, peut-être, je sais pas, veux-tu tenter une synthèse ou est-ce que tu veux en venir à des choses pratiques pour nos auditeurs? Qu'est-ce que tu leur conseilles?
Alors on va faire une petite synthèse, on va enlever le mot yoga, on va mettre le mot voix et les gens vont comprendre.
Donc voix, V-O-I-E.
Voilà, pas la voix, la gorge, le son. Donc dans la voix VOIE, il y a ceux qui recherchent la voix du corps et de l'énergie, parce que le corps est habité d'énergie. Voilà, c'est des gens qui ont une tendance plus pragmatique. Alors eux, ils vont chercher, ils vont développer d'autres qualités intérieures, ils vont chercher à se développer à travers l'effort, la discipline, la concentration, l'endurance. Il y a ceux qui ont plus une tendance émotionnelle, dévotionnelle, de cœur, qui vont chercher à s'unir à quelque chose de plus grand. Souvent, ils suivent une voie religieuse ou mystique, ou qui sont capables de se sacrifier, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour quelque chose.
Une cause.
Une cause. Donc, il y a quelque chose de dévotionnel là-dedans. Il y a ceux qui ont une attitude plus froide, plus mentale. Il y a deux types. Ceux qui vont développer une maîtrise de soi par des pratiques, des outils de concentration, de visualisation, de méditation. Et ceux qui vont plus faire une sorte de psychologie spirituelle avancée, d'introspection psychologique, contemplative sur ce que l'on est réellement et ce que l'on n'est pas. Et puis, je mettrai un grand cercle, ce qui englobe tout ça, c'est le service. Il faut que la voie que l'on suit, si on suit une voie spirituelle, qu'elle ait une répercussion sur le monde. Donc c'est le yoga de l'action, la voie de l'action, du service aux autres. Alors il y a Sri Aurobindo qui avait essayé une synthèse des différents yogas, si les gens s'intéressent à lui. Aurobindo, c'est écrit translittéré A-U-R-O-B-I-N-D-O, je crois. Aurobindo, si j'ai pas dit de bêtises. Donc il a essayé de faire une synthèse. Donc vous pouvez lire ses différents livres. Une synthèse entre, je crois, le Hatha Yoga, le Bhakti Yoga, et je sais plus si c'est le Raja Yoga ou Jnana Yoga. Un des deux au niveau plus mental.
David, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui aurait écouté cette émission et qui, ma foi, jusqu'à présent, ne s'était jamais interrogée sur le yoga, n'était entrée dans aucune démarche ou attitude?
C'est difficile. L'idée, c'est d'essayer de voir si dans sa vie, elle ne tente pas déjà de faire un certain yoga. Est-ce que cette personne ne suit pas sans le savoir, et qu'elle pourrait du coup plus se renseigner, lire, étudier, essayer d'aller vers la voie qui va lui correspondre?
Parce qu'on a chacun sa voix, mais on n'en est pas tous conscients,
voilà.
Apparemment.
Que le yoga du corps n'est pas un yoga en soi de réalisation plénière. Ça, c'est vraiment important, j'insisterai. Le yoga énergétique aussi. Personne ne se réalise entièrement, devient un maître en faisant du sport, ou du tai chi même, ou du hatha yoga physique, etc. Donc c'est un yoga quand même d'accompagnement, de bien-être même, d'hygiène.
On peut commencer par là tout de même.
Souvent, les gens commencent par là. Et donc après, il faut voir si on a une nature plus émotionnelle, dévotionnelle, si c'est par une religion, une forme de mysticisme, même ancien, Bon, il y en a qui vont vers le druidisme et qui ont envie de, comme ça, d'exprimer des grandes valeurs. Mais ça peut très bien rester donc du dévouement. Ou alors on va aller vers des pratiques plus techniques, mentales, ça dépend des types. Ou plus contemplatives, psychologiques. Voilà, ça dépend beaucoup des individus. Donc que les gens étudient d'abord un peu ce qu'ils sont et qui après ils tentent d'aller vers la voie qui leur correspond. Pour le Raja Yoga, il y a énormément de livres. Moi, c'est celui que je connais le mieux. Il y a les Yoga Sutras de Patanjali et notamment la version traduite par Alice Bailey qui est vraiment très bonne, qui s'appelle La lumière de l'âme, aux éditions Lucis Trust.
Alors David, il va qu'on s'arrête là. Merci beaucoup pour ce panorama des différents yogas.
Merci Olivier.
La prochaine fois, nous allons vous parler d'un comment dis-tu, un ésotériste.
Oui, un Britannique qui est dans la lignée de Madame Blavatsky, d'Alice Bailey, d'Elena Horitch, c'est Benjamin Crème. Donc on vous parlera pendant 1 heure de son travail, de son grand message.
Merci David, bonsoir à tous.
Bonsoir.